RFI et France 24 présentent
Mardi politique.
C'est l'heure de Mardi politique sur France 24 et RFI. Bonsoir Frédéric Rivière.
Bonsoir Rosine, bonsoir.
Ensemble, nous recevons Florence Parly. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes ministre des Armées. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors nous sommes à 5 jours du scrutin des européennes. La préoccupation de l'opinion est dans le fond de donner une lecture politique à ces élections. On parle peu, pas beaucoup d'Europe et encore moins des questions de défense alors que les enjeux géopolitiques, géostratégiques sont préoccupants. Est-ce que vous le déplorez ?
Oui, bien sûr, hein, mais il nous reste encore quelques jours pour le faire et l'Europe de la défense, c'est un sujet fondamental puisque pendant des années, les Européens ont sans doute considéré que ce n'était pas le cœur de leur problème. Mais depuis plusieurs années, malheureusement, il faut déplorer que de très nombreux attentats aient eu lieu dans de très nombreux pays européens. À vrai dire, peu ont été épargnés par le terrorisme. Et ceci explique sans doute que les Européens aient pris conscience de la nécessité de se défendre, de se protéger, de protéger leurs concitoyens. Et depuis 2 ou 3 ans, à Bruxelles, comme au Parlement européen, cette prise de conscience chemine rapidement et en 2 ou 3 ans, des progrès extraordinaires ont été réalisés dans un domaine où rien ne s'était passé quasiment depuis les 50 dernières années. Donc, ce qui s'est produit en Europe, c'est d'une part la prise de conscience des menaces. J'ai cité la première d'entre elles, le terrorisme. Mais c'est aussi des menaces qui sont liées à la géopolitique, au fait qu'un certain nombre de puissances aujourd'hui se comportent de façon potentiellement agressive. Et c'est aussi l'émergence de nouvelles menaces qui sont peut-être moins visibles, mais qui se situent dans l'espace, dans le monde cyber, et dont il faut aussi tenir compte.
Qu'est-ce que la France, Florence Parly, apporte à l'Europe en matière de défense? Et inversement, qu'est-ce que l'Europe apporte à la France dans ce domaine?
Alors je crois que la France a été motrice vis-à-vis des Européens dans le domaine de la défense, tout simplement parce que il y a 2 pays qui ont une armée qui est une armée équipée et qui n'hésite pas à se projeter sur des théâtres extérieurs, c'est l'armée française et l'armée britannique. Et cette expérience nous a beaucoup servi pour tirer les Européens en avant, parce que lorsque nous sommes partis, par exemple, au Mali en 2013, nous y sommes partis seuls. Si nous avions dû attendre la décision de nos amis européens, sans doute aurait-il été trop tard pour sauver l'État malien. Ce qui doit changer maintenant, c'est notre capacité à décider pour agir plus rapidement. Et donc, plutôt que de nous retourner vis-à-vis de nos partenaires européens en disant « Mais où êtes-vous ?», ce à quoi nous travaillons désormais, notamment avec quelque chose qui s'appelle l'initiative européenne d'intervention, que le président Macron a poussé en avant dès le mois de septembre 2017 dans son discours de la Sorbonne, c'est une capacité à travailler avec les États qui le veulent bien, c'est-à-dire qui ont la capacité militaire et la volonté politique de le faire, de planifier par avance un certain nombre d'opérations pour pouvoir, le cas échéant, se projeter sur des théâtres de crise pour contribuer à leur résolution.
Alors justement, l'Europe de la défense, elle est toujours évoquée, mais vous noterez jamais réalisée. Il y a le sujet de l'armée et il y a le sujet de l'armement. Sur le budget de l'armée, les Allemands, il faut le dire, ne veulent pas avancer, notamment sur leurs effectifs. Sur les crédits, la lenteur est aussi importante. Est-ce que le pacifisme allemand est un frein à cette Europe de la défense ?
Les Allemands sont nos partenaires et ce sont des partenaires essentiels car ils nous ont accompagnés dans cette construction de l'Europe de la défense que je décrivais il y a un instant. Nous avons lancé des projets majeurs, en particulier dans le domaine des équipements, avec nos partenaires allemands. Le char de combat du
système
futur, qui remplacera le char Leclerc, sera un char de combat franco-allemand. Le système de combat aérien du futur, qui notamment remplacera l'avion Rafale de combat, eh bien, ce sera un système franco-allemand. Donc, les Allemands sont nos partenaires, y compris dans le domaine des équipements militaires. Mais il faut aussi intégrer le fait que l'Allemagne a sa propre histoire, son propre passé, et que l'armée allemande ne peut pas,
un changement de mentalité.
Ne peut pas intervenir pour des raisons constitutionnelles comme le ferait ou comme le fait l'armée française. Il y a des limitations et ces limitations sont imposées par la Constitution et sont entre les mains du Bundestag, c'est-à-dire du Parlement. Oui. Donc, en effet, nous ne pouvons pas faire les mêmes choses, mais nous pouvons aussi être complémentaires. Je parlais tout à l'heure de l'Afrique, du Mali, du Sahel.
On va en parler.
Eh bien, nous sommes avec les Européens, mais nous sommes aussi avec les Allemands au Sahel.
Très court, la question sur, vous parliez des Anglais, il y a le Brexit qui n'en finit pas, qui est interminable. Alors là, on a vu que Theresa May a proposé un deuxième référendum, mais en matière d'armée, la Grande-Bretagne est importante. Est-ce que les liens militaires avec la Grande-Bretagne restent forts?
Oui, vous avez raison, la contribution britannique à la défense et à la sécurité du continent européen est très importante et a vocation à le rester. Avec les Britanniques, nous avons noué une relation profonde de coopération sur le plan bilatéral. Et nous fêterons l'année prochaine les 10 ans du traité de Lancaster House qui scelle cette coopération dans tous les domaines, dans les domaines opérationnels, mais aussi dans les domaines industriels et d'équipement. Mais il est bien évident qu'au-delà du bilatéral, il faudra, lorsque le Brexit sera consommé, il faudra pouvoir trouver un mode d'association de la Grande-Bretagne à l'Union européenne. Et c'est ce que le président de la République suggérait lorsque il a parlé d'un traité européen avec un Conseil de sécurité européen. L'idée, c'était de pouvoir garder, si vous permettez cette expression, à bord les Britanniques, parce que les Britanniques ont une armée puissante, ils disposent de capacités variées comme nous, ils disposent de la dissuasion nucléaire comme nous, ils disposent de porte-avions comme nous, ils disposent d'avions de combat comme nous. Bref, ce sont des partenaires essentiels et eux aussi se retrouvent avec nous sur des théâtres d'opérations extérieures, comme par exemple celui du Sahel, ou comme au Levant, puisqu'il y a un an, nous avons fait une opération avec les Américains, avec les Britanniques, en représailles des attaques chimiques qui ont eu lieu en Syrie.
Alors à propos du Sahel, justement, le G5 Sahel se met en place, mais c'est long, c'est difficile, il manque aujourd'hui encore des moyens, les financements tardent toujours, il y a eu, comme dans certaines émissions, des promesses de dons, mais pour l'instant les dons ne sont pas arrivés. Le ministre nigérien des Affaires étrangères disait la semaine dernière, parce qu'il y a eu une réunion à Bruxelles, la force est opérationnelle, mais il faut des équipements, elle n'a pas de blindés, elle n'a pas encore beaucoup de moyens. Pourquoi c'est si difficile?
Alors, tout d'abord, il faut souligner une chose, c'est que c'est une initiative unique, comprise les 5 pays du Sahel concernés par le terrorisme, que de créer une force qui a la capacité de passer les frontières. Parce que les terroristes ne connaissent pas les frontières et donc il faut ne pas être limité par l'existence de ces frontières territoriales. Et c'est une initiative qu'il est difficile de mettre en œuvre. Songez un instant au nombre d'années qu'il a fallu pour pouvoir créer l'interopérabilité des forces européennes au sein de l'Alliance Atlantique. Donc, c'est long, c'est difficile et c'est normal. Et de surcroît, il s'agit de pays qui ont peu de moyens, qui ont des armées qui sont de taille, en général, relativement modeste, et donc, ça n'en est que plus difficile face à cette menace terroriste. Donc,
Nous avons pris
une initiative au plan international, c'est d'essayer de mobiliser la communauté internationale pour trouver des fonds afin d'équiper cette force. Et bien sûr, c'est...
Et demander à Donald Trump que soit pérenne et encore les financements,
ces financements viendront d'autant mieux et rapidement que cette force conduira des opérations. Elle en a conduit un certain nombre. Et donc, ce que nous nous efforçons de faire, c'est de l'encourager à en conduire plus pour que, ce faisant, les financements puissent arriver plus rapidement. Mais c'est un fait que les financements, parfois, sont un peu longs à être concrétisés. Et je ne manque pas une occasion, chaque fois que je rencontre mes collègues étrangers, de leur rappeler qu'ils ont pris des engagements et que ces engagements doivent être tenus.
On va revenir sur ce qui s'est passé au Burkina Faso. Le Bénin était relativement protégé par la menace djihadiste, mais le sanctuaire s'étend vers le sud, vers les côtes, avec maintenant le nord du Bénin et peut-être le Togo et peut-être la Côte d'Ivoire. Est-ce que votre grande crainte, c'est que les djihadistes arrivent à maîtriser les zones côtières pour avoir accès à la mer et y faire leur trafic. Est-ce que ça, c'est vraiment une préoccupation pour vous ?
Notre objectif, c'est de contenir cette menace terroriste, d'une part.
Mais elle est en train de s'étendre. Il y a une expansion.
Elle évolue, elle se relocalise, hein, c'est exact. Et nous faisons, avec la force Barkhane, nous faisons mouvement pour contenir sur de nouvelles zones.
Mais force Barkhane, c'est 4500 hommes pour un si grand territoire.
Bien sûr, c'est 4500 hommes, mais c'est 4500 hommes qui sont extrêmement investis, qui mènent une action efficace. Moi, je voudrais rappeler que nous avons des résultats. Nous avons, depuis que Barkhane a été déployé au Sahel, nous avons capturé, neutralisé plus de 600 terroristes et que chaque fois que nous intervenons, c'est non seulement des terroristes ou leurs chefs que nous prenons, mais c'est aussi toute la logistique de ces mouvements que nous mettons en péril. Nous avons encore très récemment mis la main, si je puis dire, à la suite d'une intervention de Barkhane, sur des réserves qui avaient été constituées d'armement, d'explosifs, qui sont tout à fait importants. Et donc, chaque fois que la logistique de ces groupes est désorganisée, c'est du temps qui est gagné et c'est de la sécurité qui est retrouvée.
La semaine dernière à Bruxelles, la haute représentante pour les affaires étrangères de l'Union européenne, Federica Mogherini, disait « On est dans une situation paradoxale, les efforts de l'Union européenne et des États membres en faveur du G5 Sahel augmentent, mais la situation se détériore ».
Je ne crois pas que l'on puisse porter un jugement à l'instant T. Autrement dit, je pense qu'il faut apprécier l'efficacité de ce que nous faisons aux côtés des Européens et de la communauté internationale, puisque les Nations Unies sont également très présentes sur ce théâtre. Dans le temps long, on n'éradique pas le terrorisme en l'espace de quelques mois. C'est une action de longue haleine. Pourquoi ? Parce que non seulement, comme je le disais, il faut contenir les terroristes, ce qui suppose une action sur le terrain extrêmement déterminée, mais il faut aussi, et en parallèle, agir en faveur de la formation des armées nationales pour que celles-ci puissent prendre petit à petit la main sur leur propre sécurité et également en parallèle accompagner le retour de l'État, le retour des services de base, mener des actions de coopération et de développement parce que tout le monde est convaincu, moi la première, qu'il n'y aura pas de solution militaire au Sahel. Il y aura un accompagnement militaire à une solution politique, mais pour l'instant, en effet, la solution politique a pris du retard.
En un mot, sur l'otage qui est toujours au Mali, dans le nord du Mali, donc Sophie Petrona, le président de la République a dit lors de l'hommage aux deux soldats tués qu'il ne l'oubliait pas. Son fils accuse la France d'avoir laissé tomber sa mère. Aujourd'hui, est-ce qu'il y a des pourparlers ? Est-ce qu'il y a des discussions qui sont engagées ? Assez brièvement.
Je crois que le président de la République a tout dit. Nous ne l'oublions pas.
Oui, mais enfin,
veut dire que nous continuons d'agir. Quand je dis nous continuons, ce sont tous les services de l'État qui sont mobilisés depuis maintenant des mois et des mois. Et pour le reste, eh bien, la suite nous dira si notre action aura in fine ce que nous souhaitons était efficace.
Alors il y a une autre question, c'est la France qui a vendu, donc qui vend des armes à l'Arabie Saoudite, des armes soupçonnées de servir la guerre d'être utilisées pour la guerre au Yémen, tuant des victimes. Vous dites qu'il n'y a pas de preuves et vous refusez de répondre aux questions, bien évidemment, puisque ce sont des questions classées secret défense. Alors en France, il y a ce qu'on appelle le SMIEG, c'est la commission interministérielle pour l'étude des exportations de matériel de guerre qui donne ces arbitrages. Dans ce comité, il y a vous, enfin, il y a le ministère des Armées, le ministère des Affaires étrangères et des Finances. Mais en réalité, il y a quand même un manque de transparence puisque c'est très obscur, c'est très opaque. Qui décide à qui on vend et qui a la voix la plus forte pour décider et donner en gros quitus aux industriels pour vendre à des pays compliqués comme l'Arabie Saoudite. Est-ce que c'est le président de la République qui a le dernier mot ?
Alors, nous avons un processus d'exportation de nos armements très encadré pour une raison très simple.
Mais très opaque.
Il n'est pas opaque. Il est très encadré parce que le principe, c'est que la vente des armes est interdite. sauf décision contraire. Donc on est dans un mode d'exception et non pas dans une règle automatique, loin s'en faut. Et il y a donc en effet une commission interministérielle qui est présidée par le Premier ministre, dans laquelle les différents ministères qui ont des enjeux différents, le ministère des Armées a ses propres enjeux, le ministère des Affaires étrangères aussi, le ministère de l'Économie et des Finances aussi, et donc c'est au terme d'un examen extrêmement scrupuleux qui permet également d'évaluer si nous respectons les critères des traités et des textes internationaux auxquels nous avons souscrit.
Il n'y a pas de contrôle parlementaire, par exemple. Les parlementaires ne peuvent pas...
Et il y a une présentation tous les ans à travers un rapport qui est publié, qui est donc tout à fait accessible au grand public, que je présente au Parlement et qui décrit quelle a été l'activité de la France en matière d'octroi de licences d'exportation d'armement. Et pour achever de vous dire que non, ce n'est pas opaque et il y a beaucoup de dialogue entre nous et les parlementaires, c'est que j'ai encore récemment passé 2h30 à l'Assemblée nationale devant la Commission de la Défense pour répondre aux questions des députés sur cette question, que je m'apprête à faire de même demain vis-à-vis de la Commission de la Défense et des Affaires étrangères du Sénat. Alors bien sûr, on peut avoir un débat sur est-ce que la répartition des pouvoirs tel qu'il est prévu dans la Constitution française entre ce qui relève de l'exécutif et ce qui relève du législatif, tout ça peut naturellement être discuté. Mais moi, mon rôle, c'est d'appliquer la Constitution et de rendre en effet des comptes en répondant aux questions des députés. Et j'avoue que quand on a un peu de temps sur des sujets qui sont en effet complexes, eh bien, on arrive à se comprendre.
On n'a pas le temps d'approfondir finalement sur cette question des ventes d'armes au Yémen. Donc on
l'Arabie Saoudite.
L'Arabie Saoudite avec les implications que ça peut avoir au Yémen. Donc je vais vous poser une question un peu légère pour terminer sur la campagne européenne, si on peut parler de légèreté. Est-ce que pour vous, il est primordial et essentiel d'être devant le Rassemblement National? Est-ce que c'est ça? Parce que c'est ce qu'on entend beaucoup dans la bouche des cadres du parti majoritaire, La République En Marche, c'est être devant le Rassemblement National. Est-ce que c'est ça qui prime?
Emmanuel Macron est le seul candidat à avoir défendu sa vision pour l'Europe dans le cadre de la campagne présidentielle. Marine Le Pen, elle, utilise l'Europe, les fonds de l'Europe et le Parlement européen pour détruire l'Europe, puisque c'est son objectif. Donc moi, je n'ai pas d'état d'âme. Je défends la vision du président de la République pour une Europe ambitieuse, qui ne soit pas une Europe bureaucratique, mais qui redonne du souffle à notre vision européenne. Donc j'irai voter dimanche. Et j'invite tous ceux qui n'ont pas encore compris qu'il n'y avait pas de tour d'y aller dès dimanche, car il n'y a qu'un tour.
Merci, Laurence Parly. Voilà, c'est la fin de cette émission, Roselyne.